Jean-Sébastien Petit-Demange publie aux éditions Larousse « J'irai flâner sur vos tombes ». J'aimais bien le titre de Boris Vian, mais celui-là, je l'aime bien aussi. Donc, il y a la tombe de Boris Vian ?
Non, on l'a pas mise.
Alors donc cette invitation à aller flâner sur les tombes des hommes et femmes célèbres, finalement les cimetières ont toujours attiré, bien sûr le Père Lachaise, mais les cimetières ont toujours beaucoup attiré le public qui aime à soit se recueillir, soit à découvrir l'endroit où justement ces hommes et femmes célèbres reposent.
C'est devenu à la mode, ça ne l'était pas du tout il y a encore quelques années, parce que en fait on allait dans les cimetières pour voir ces morts. Et pour voir les caveaux familiaux, on allait les fleurir, on allait les entretenir. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, quand on regarde l'histoire de ces cimetières, qu'il y a de moins en moins de caveaux familiaux avec les familles recomposées. On se fait enterrer la plupart du temps là où on vit, ce qui n'est pas forcément le berceau familial. Et du coup, effectivement, les cimetières sont devenus des lieux touristiques, notamment en France, pour aller voir les gens qu'on aimait bien. Et pour aller honorer des stars, des écrivains, des chanteurs qu'on avait envie de redécouvrir. Et puis, il y a quand même un truc dans les cimetières qui est assez fabuleux, c'est qu'on ne fait aucune mauvaise rencontre. On est bien, on est tranquille dans un cimetière.
C'est vrai, c'est calme.
C'est plutôt très calme. Alors, le Père Lachaise, la nuit, des fois, c'est un peu agité. Mais il se passe deux, trois petites choses. Mais bon...
Il y a des tombes qui sont propices, je pense à Allan Kardec ou Jim Morrison par exemple.
Il y a aussi la tombe d'Oscar Wilde.
Oscar Wilde
où maintenant il a fallu verrouiller le petit ange qui est au-dessus d'Oscar Wilde parce que depuis le début on pique le sexe de l'ange.
Vous avez fait parmi vos recherches, des découvertes de cimetières un peu oubliés où reposait un personnage célèbre.
Moi, j'ai découvert. Il y a un cimetière, le cimetière d'Aize, où Francis Blanche a choisi de se faire enterrer, est une pure merveille. Parce que vous imaginez, on est en hauteur, village perché, au bord de la Méditerranée. Il y a juste deux grands cyprès de chaque côté, et Francis Blanche regarde la mer pour l'éternité. C'est plutôt pas mal.
Je pense au cimetière de Sète aussi, où repose Brassens.
Le cimetière de Sète, il était plus connu parce qu'il y a une anecdote assez amusante, c'est qu'en fait, le gardien en avait tellement marre, au bout de quelques années, qu'on lui demande où était la tombe de Brassens, qu'il avait dressé son chien, et que le chien, à l'entrée du cimetière, savait que les gens qui venaient voulaient aller à la tombe de Brassens, donc il les amenait tout bêtement, il y avait une petite pancarte, suivez le chien.
Alors, donc, ces tombes, quelquefois, reflètent finalement la personnalité des gens.
Ouais, souvent, quand même, on se rend compte que les gens... Bon, il y a évidemment le côté...
Je ne parle pas de Napoléon Bonaparte, mais...
Je ne suis pas sûr qu'il ait voulu être enterré aux Invalides, d'ailleurs. Mais à part le Père Lachaise, j'allais dire, parce que là, on est dans un cimetière de stars, à part le Montparnasse, mais généralement, quand on veut se faire enterrer dans un village, dans son coin à soi, effectivement, ça reflète largement la personnalité. Et Louis de Funès, qui se fait enterrer en Loire-Atlantique, juste à côté de son château, c'est évident que lui, il avait envie d'être dans un environnement qu'il connaissait, où il était rassuré et où il voulait être chez lui. De la même manière, Daniel Balavoine, qui est enterré dans le Pays Basque, moi ça m'a beaucoup surpris parce que j'étais persuadé qu'il était dans un cimetière parisien. Il est dans le Pays Basque et il a absolument voulu être là-bas parce que c'était pour lui l'endroit où il voulait ancrer ses racines.
Alors bien sûr, le Père Lachaise, quand on arrive, de toute façon, un guide, un dépliant, il y a tout ce que l'on veut. La difficulté, quelquefois, dans certains cimetières, c'est effectivement de trouver la tombe. On parlait de Bourville tout à l'heure, mais la tombe de Bourville à Montainville est complètement anonyme. Il n'y a personne pour vous renseigner, en plus.
Personne.
Est-ce que les cimetières qui ont une personnalité comme cela, finalement, utilisent un peu cette notoriété pour mettre en avant leur cimetière ?
Très rarement. Le Père Lachaise, évidemment, Montparnasse, bien sûr, Montmartre, c'est évident. Mais c'est extrêmement rare parce qu'en fait, c'est très bête de dire ça, mais ça pose plus de problèmes que ça ne rapporte d'argent. Parce que si vous commencez à faire la promotion d'une vedette qui est chez vous, vous avez des problèmes. Quand vous êtes maire, vous avez des problèmes de parking, vous avez des problèmes de sécurité et vous avez des problèmes de dégradation. Donc en fait, ça reste dans le cercle des gens qui ont envie de venir et du coup, c'est plutôt tranquille et il y a rarement de la promotion qui est faite autour de la vedette qui dort chez vous.
Vous parliez tout à l'heure d'Oscar Wilde et de dégradation. Finalement, il y a quelquefois des dégradations, mais pas tant que ça.
Les dégradations, elles sont faites en règle générale de manière idiote, politique, intellectuel, mais rarement ad hoc. On dégrade rarement la tombe, à part l'exemple tristement con de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Colombey-les-Deux-Églises, où l'ivrogne a cassé la croix sur la tombe du général de Gaulle. Mais à part ça, sur des tombes de gens célèbres, il y a très rarement des dégradations volontaires. Bon, Jim Morrison, quand on colle un chewing-gum sur sa tombe, on ne peut pas dire que c'est une dégradation, c'est un hommage. Après, quand il y a 2500 chewing-gums, là, c'est un autre problème.
Alors, il y a certains, je pense au Père Lachaise, il y a certains mathématiciens ou physiciens qui ont des petits mots d'étudiants qui vont passer le bac ou certains examens. C'est assez cocasse, quelquefois.
Mais il y a ce côté... moi, je trouve il y a un côté rassurant à tout ça. Ça veut dire que la mystique... La magie et le côté irréel, enfin l'au-delà vit encore, et il y a encore ce côté magique de se dire dans l'au-delà, il y a quelque chose. C'est plutôt rassurant de voir que tout le monde n'est pas persuadé qu'on va mourir bouffé par les vers et et qu'il n'y a rien du tout après, quoi. Moi, je trouve que au moins, ça donne... C'est chacun pense ce qu'il veut, mais au moins, il y a un truc qui est plutôt rassurant.
J'irai flâner sur vos tombes, donc Jean-Sébastien Petit-Demanche, c'est aux éditions Larousse. Une promenade à la fois intellectuelle, à la fois mystique, à la fois culturelle, et une promenade, finalement, qui va a démontré que sinon les cimetières ont une âme, les âmes sont dans le cimetière.
Bah exactement, c'est ça.